bienvenue dans Sur le grill des cotables, le podcast qui décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Ce podcast est aussi l'occasion de dresser des portraits de l'écosystème écotable. Ces militants de l'assiette, je les rencontre depuis le lancement des cotables début 2019. Ils se réunissent autour d'objectifs communs, l'écologie et le bien manger. Aujourd'hui, à travers ce nouveau format, je souhaite faire connaître ces restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs, militants. Je souhaite vous faire partager ces engagements, ces parcours. J'espère que ces portraits vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour et à nous soutenir en notant ce podcast 5 sur 5 et en le partageant largement. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Militants de l'Assiette. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Mouchot et Nicolas Allary, les fondateurs des restaurants Oli Belli. J'en suis particulièrement ravie car ce duo est inspirant. En couple, depuis le lycée, Sarah et Nicolas ont d'abord fait leurs armes en Australie, puis sont revenus en France où ils ont ouvert deux adresses parisiennes qui cartonnent. Avec plus de 65 000 followers sur Instagram, Oli Belli est une véritable institution qui propose des plats inspirés de leur voyage. J'ai pu découvrir leur puissance récemment via la plateforme de livraison éthique Resto.Paris que l'on a montée avec Olvo. À leur arrivée, la plateforme s'est mise à flamber. Cerise sur le gâteau, Sarah et Nicolas ne concèdent rien sur le terrain de l'écologie. Leur slogan « It's good because we care » a été, de fait, attesté par une labellisation écotable depuis peu. Bonjour Sarah et Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, chacun vous tour, vous présenter déjà ? Sarah.
Donc moi je suis Sarah, cofondatrice de Oli Belli avec Nicolas. On a ouvert Oli Belli donc en 2013.
Ok.
Et voilà, moi Nicolas, j'ai 34 ans et puis on a ouvert Oli Belli avec Sarah. On est juste nous deux, il y a personne d'autre, c'est elle et moi. Voilà, et ça, la présentation c'est à peu près ça.
Ok. Je voudrais L'idée de ce podcast, c'est évidemment de revenir sur votre parcours et donc peut-être d'y revenir un peu de façon chronologique. Déjà, vous vous êtes rencontrés où ?
On s'est rencontrés à Beauvais, dans l'Oise, parce que moi, à l'époque, j'étais très, très ciné et je voulais en faire ma vie. Je m'étais orienté dans mes études pour faire du cinéma. Et il y avait une option qui s'appelait l'option cinéma audiovisuel au lycée à l'époque. Donc, en fin de troisième, j'avais cherché l'option cinéma audiovisuel qui était pas... Moi, j'habitais pas du tout à Beauvais. J'habitais à Lille, dans le 95. Et il y avait pas d'option. Du coup, ils m'ont dit, si tu veux faire une option cinéma audiovisuel, il va falloir faire de l'internat. Il va falloir aller à Beauvais. Donc du coup, j'ai pris mes affaires et à la grande tristesse de ma maman, quand j'avais 15 ans, j'ai dit que je partais et je rentrais que les week-ends. Et j'ai découvert la belle ville de Beauvais et j'ai fait seconde première terminale là-bas pour pouvoir faire ma petite option cinéma audiovisuel. Et Sarah, elle était de Beauvais. Et du coup, voilà, on a été dans la même classe.
Ok, donc toi aussi, Sarah, tu voulais faire du cinéma.
Ouais. On a tous les deux été en section cinéma audiovisuel au lycée, ouais.
Ok, donc lycée technique ?
Non, lycée général.
Moi, j'ai fait un bac L classique, mais il y avait une option cinéma, tu vois, qui était pas partout. C'était pas grand-chose. C'était, je crois, juste le mercredi, on avait une demi-journée.
Ouais, en seconde. Ouais, voilà. Ouais.
Mais c'est ça qui m'a amené à Beauvais. J'y serais jamais allé sinon. Et après, j'ai trop kiffé. Enfin, c'est vraiment une chouette ville et tout. Et Sarah, c'était son lycée de secteur, quoi. Enfin, c'était de là-bas.
Ouais, c'était mon lycée.
Et du coup, on s'est rencontrés là-bas.
Et après... vous êtes vraiment en couple depuis le lycée ?
Ouais.
Depuis la terminale.
Depuis la terminale, ouais.
C'est une histoire vraie.
On a 34 ans aujourd'hui et on est ensemble depuis nos 17 ans. 17 plus 17, 34. Bravo. Donc la moitié de notre vie.
Ouais, la moitié. Mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, là, c'est pas une performance. C'est juste qu'à chaque fois qu'on en parle, en fait, il n'y a pas eu de. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de moment où vous n'avez plus envie d'être ensemble. Donc, du coup, les années, elles passaient. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, il n'y avait rien qui. Voilà, tout se passait bien. On a toujours été à peu près alignés dans nos envies, dans ce qu'on voulait faire. Après, on a fait. À la fin de nos études, quand on a eu notre bac tous les deux, après, on a eu envie d'apprendre l'anglais. Et du coup, on est tous les deux partis en Angleterre un an en au pair. Donc, ça, on l'a fait tous les deux. Après, à la fin de. de notre année en au pair, on a voulu continuer dans notre parcours. Donc, on a fait un BTS audiovisuel. On s'est débrouillé pour avoir le même. Donc, on a fait le même BTS audiovisuel à Saint-Quentin dans l'Aisne. Sarah, elle était en option production. Et moi, j'ai fait du montage et de la post-production. Donc, ça, on l'a fait ensemble. Et voilà, les années passées. Et puis, on était bien ensemble. Donc, on a continué. Et après le BTS, on voulait pas devenir intermittent du spectacle tout de suite parce que c'était ça notre statut en tant que monteur ou productrice. Et du coup, on savait que les mécanismes de ce statut, ça faisait qu'en fait chaque année tu devais avoir tes heures et tout. Donc on s'est dit ok, si maintenant on commence à mettre le doigt là-dedans, on va faire ça toute notre vie. Mmh. On avait envie de voyage, on avait envie de voir un peu plus que ce qu'on connaissait. Et du coup, on a fait un PVT qui à l'époque était pas ultra connu à l'époque où on l'a fait.
Permis vacances travail.
Ouais, permis vacances travail qui est devenu super populaire, mais c'était un petit programme à l'époque. On a eu nos visas pour Vancouver assez facilement. Et voilà, après on a fait nos 2 ans et demi, 3 ans à Vancouver, tous les deux. Et puis voilà, les années se sont enchaînées, tac, tac, tac. Après on est allé à Melbourne. On a remisé encore 3 ans avec ce même PVT. Et après, quand le visa s'est terminé en Australie, on avait la même envie d'ouvrir un lieu. Et voilà, Sarah, elle cuisinait depuis un moment. Et moi, j'étais barista aussi depuis un bon moment.
Ah, attends.
Ouais, je vais vite, voilà.
Mais ne brûle pas les étapes.
On n'était pas dans un truc de rester ensemble. Enfin, ça s'est fait petit à petit. Il n'y a jamais eu aucun moment. C'est pour ça que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, mais il n'y a rien de
Je pense qu'il y a un moment où, à la fin du BTS, moi, j'avais pas envie de continuer dans le cinéma. Je le savais. C'est pour ça qu'on est parti. Nico voulait plus ou moins faire du montage. On est parti à Vancouver pour ça parce que ça nous permettait aussi de faire d'être dans le cinéma et pour moi d'être à l'étranger. C'est là qu'on a découvert vraiment la scène du café, etc. Mmh.
Qu'est-ce qui a fait déjà que tu ne voulais plus faire du cinéma?
En faisant les tu sais, quand tu fais les des stages et que tu vois vraiment le milieu professionnel, ça m'a pas vraiment plu. Après, ça m'a apporté plein de trucs de faire de la production, même encore aujourd'hui en tant que restaurateur. On doit porter tellement de chapeaux que le côté comptabilité, organisation, de planning et tout, ça je le fais encore en ayant Olibelli. Donc c'était bien pour ça, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'être assistante de production. Ça m'a pas intéressé. Les études m'ont plu, mais je savais que j'avais pas envie de faire ça
D'accord.
plus tard.
Et alors, c'est en allant à Vancouver que vous commencez à découvrir, disons, un produit, le café.
Ouais.
Oui vraiment... et non. En fait, Vancouver, c'était plus, on y allait un peu comme ça parce qu'il fallait on avait envie de partir loin. On avait envie que ce soit anglophone, dans mon souvenir.
Ouais.
Et c'était un peu le plus loin. C'était genre très loin. On voulait pas aller à Montréal ou quoi parce que on savait qu'on allait parler français et tout, donc on a poussé au plus loin et c'est arrivé de l'autre côté, c'était Vancouver, ça nous paraissait bien.
Je pense que pour le cinéma, pour toi, c'était intéressant Vancouver quand même.
Ouais, c'est un gros hub en plus pour le cinéma et tout. Bref, et donc ça, pour plein de raisons, ça avait du sens, mais en fait le déclic qu'on a eu à Vancouver, c'était pas celui qu'on recherchait, mais moi je raconte toujours l'histoire comme étant les années à Vancouver comme l'année du déclic sur l'entrepreneuriat en fait. Parce qu'en France, on parle pas beaucoup de l'entrepreneuriat à l'école. C'est vrai que quand tu fais ta 6e, 5e, 4e, etc., t'as un peu une idée de ce que t'aimes faire. Quand tu vas voir le ou la conseillère d'orientation, ils regardent tes notes et ils te disent, t'as telle note, tu devrais faire ci ou ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? Mais à aucun moment on te dit, ou sinon, choix numéro 4, 5, 6, tu peux aussi être entrepreneur, créer une structure, faire autre chose que de travailler pour quelqu'un ou d'être de faire ci ou ça. Et quand on est arrivé à Vancouver, on s'est fait un peu des copains et tout, des gens qui avaient notre âge, 20, 21, 22, 23, et eux ils étaient en mode moi je vais faire des baskets ou moi je vais ouvrir un magasin de ça. On était là, ah oui, c'est vrai que tu peux aussi faire ça en fait. Et donc moi si je raconte souvent ça comme étant un peu les années Vancouver, c'était les années de un peu de libération d'un une sorte de petit carcan de pensée français qui était pas malsain, mais qui était en mode on va faire ce taf. Et puis après il y avait aussi cette possibilité de il y avait une ouverture, on peut aussi monter un truc,
on peut créer des choses
quoi. On peut être hors case. On n'est pas obligé d'être dans une case.
C'est très vrai ça. J'ai à peu près le même âge que vous, donc je ressens exactement la même chose. Je me demande si c'est encore le cas aujourd'hui. Je me demande si avec cet esprit Startup Nation, il n'y a pas quand même aujourd'hui une tendance. Ouais. Alors, Alors, je sais pas du côté des personnes qui accompagnent concrètement, mais en tout cas, du côté de la jeunesse, je pense qu'il y a davantage cette ambition.
C'est
parfois.
Bien.
Ouais. C'est bien. Nous, quand on est revenu d'Angleterre, rien que d'avoir passé un an au pair en Angleterre, quand on est revenu faire notre BTS, on nous a dit, oula, mais attendez, vous avez arrêté vos études pour un an, je suis pas sûre que ça va.
C'est bien compliqué, ouais.
C'est dingue, parce que dans le cinéma, il faut savoir parler anglais, donc, c'était un parcours qui était assez logique.
Mais c'est vrai que nous, on est de 86 tous les deux, et j'ai pas le souvenir qu'on m'ait jamais dit que ça pouvait, qu'on pouvait, voilà, ouvrir une affaire, tu vois,
notre propre truc, puis en effet, on vient de familles qui sont pas.
Pas commerçants du tout, quoi.
Pas entrepreneurs, toute notre famille travaille.
Oui, oui.
On n'avait pas ce modèle-là.
Non.
Ni dans la tienne, ni dans la mienne.
Non. Et c'est vrai que, mais c'est bien, ouais, t'as raison, c'est vrai que maintenant, il y a quand même un éveil là-dessus. Nous, maintenant, on a un petit garçon, et moi, je sais que je lui dirais toujours, tu peux faire ça, ou faire ton propre truc. Mm. Mais c'est vrai que les années Vancouver, si on est sur la chronologie, c'est là, pour moi, c'était un peu, ça nous a ouvert les yeux sur cette possibilité, quoi.
Et du coup, est-ce qu'on peut considérer que ça a créé un déclic dans le sens où vous êtes dit, ok, alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon compte?
Ouais. Après, il y avait aussi en parallèle de ça une autre façon de consommer. Tu sais, nous en France, donc dans jusqu'à nos 20-21 ans, moi quand j'allais au restaurant, il y avait toujours une raison. Soit il y avait un anniversaire, ou il y avait parce que moi j'ai une famille modeste et puis Sarah aussi, et donc il y avait rarement le resto plaisir, c'était souvent un resto d'occasion. On va au resto parce que si, on va au resto parce que ça, il y avait jamais genre juste on va au resto, tu vois. Et à Vancouver, il y avait aussi le deuxième déclic, en plus de l'entrepreneuriat, c'était aussi une autre manière de consommer, une autre manière d'aller au resto, beaucoup plus détendu, beaucoup plus casual comme on dit. Tu peux y aller une à deux fois par semaine, ça coûte pas extrêmement cher, c'est beaucoup plus quelque chose qui est qui est incorporé à ta vie, et t'attends pas forcément des moments clés ou des moments anniversaires pour sortir. Donc c'était un autre truc aussi. Donc ça, le truc de l'entrepreneuriat plus cette autre façon de sortir au resto beaucoup plus détendue, et cette ambiance aussi, tu vois, du coup ça crée des restos très avec beaucoup d'énergie et tout. Je sais que ça a mis quelque chose en place dans nos têtes, et on s'est dit, ah, il y a ça aussi qu'on aime bien en fait.
C'est là aussi qu'on a découvert le café de spécialité, c'était un peu notre premier pas dans
C'était les premiers bean to bar qui avaient
début vraiment du café de spécialité, donc tu sais où ils sourçaient vraiment bien, où ils le préparaient d'une certaine manière, et Sarah elle bossait au Eligen, qui était un de ses premiers endroits, et moi j'avais pas du tout un pied là-dedans encore, et je venais la chercher le soir après son shift, et je restais tout le temps à la fermeture et tout, et on était quand même attiré par ce milieu vachement
un peu fasciné.
C'est là qu'on a découvert que le café avait un goût particulier en fonction de la provenance, que ça nous a vachement éclairé là-dessus.
Toi tu faisais quoi, Sarah, là-bas?
Et ben moi j'étais en salle là-bas, disons qu'il y avait beaucoup de takeaway, de café takeaway, donc j'étais à la caisse et aux pâtisseries et tout ça. J'ai commencé là, je suis passée en cuisine après.
Ok, donc ta première expérience cuisine, c'est à Vancouver?
Ouais.
Ok, et qu'est-ce que tu faisais en cuisine? Comment t'as eu cette idée de passer à la salle à la cuisine? Est-ce que ça a été une envie qui est apparue progressivement?
Oui, ça m'a intéressée. J'ai toujours été assez intéressée par la cuisine. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de mettre le pied dedans, comme on dit. Au Eligen, c'était vraiment de la nourriture assez simple. Il y avait beaucoup de sandwichs, de petites salades, de soupes et tout, et de pâtisseries. Mais ça m'a vraiment attirée parce que, encore une fois, c'est un truc auquel on n'était pas habitué chez nous, enfin quand on était plus jeune. C'était que avec des produits bruts, des produits frais. Ils pensaient à la saison, à la qualité de l'ingrédient et tout. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus. C'est un truc auquel on n'était pas habitué ou auquel on pensait pas, en tout cas quand on était plus jeune. Et ça nous a vraiment attiré, ce côté-là.
Ça vous a sensibilisé même à ces questions-là.
Ouais. Ouais. Et ce qui est cool aussi à Vancouver, c'est qu'ils sont pas du tout dans ce, tu sais, il y a pas besoin d'avoir un diplôme formateur pour, tu vois, par exemple Sarah elle a basculé en cuisine au Eligen, mais juste parce que ils ont senti qu'elle avait la capacité et l'envie, boum, ça s'est fait.
Ça
nous a permis de gagner vachement de temps en fait, parce que on n'était pas bloqué par des trucs de formation. En gros, ils te disent on essaye, et si ça se passe bien et que t'arrives à l'heure et que t'as envie et que tu fais le taf,
ils sentent que t'as une bonne attitude, ils vont te donner ta chance. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, ils vont quand même te donner ta chance, même si t'as pas forcément le petit papier qui va avec, comme parfois en France.
Donc tu penses que ça se serait pas passé comme ça en France ?
Non, non, non.
Ça nous a vachement aidé. Ouais. On a gagné beaucoup de temps parce qu'on avait envie, parce qu'on était énergique, on avait la pêche, on était curieux de tout. Et donc du coup, ça, face à un employeur, puis maintenant moi je le vois en tant qu'employeur aussi, ça fait 7 ans qu'on emploie des gens. Je pense qu'on a embauché peut-être 80-90 personnes en 7 ans. Ce que je recherche maintenant, quand j'ai quelqu'un en face de moi en entretien, c'est une faim, c'est une envie, c'est une énergie. Après, oui, je vais regarder un petit peu. On a tout essayé. On a essayé vraiment les gens sans expérience. On a essayé les gens avec un peu d'expérience, les gens avec beaucoup d'expérience. C'est quand même bien les gens qui ont un peu d'expérience. Tu gagnes aussi un peu de temps en tant que patron là-dessus. Mais c'est sûr que là-bas, ils te laissent beaucoup plus. Et ça s'est confirmé à Melbourne aussi. Peut-être c'est un truc anglo-saxon. Mais la prise de risque est moindre parce qu'il n'y a pas cette espèce de cadre du CDI qui est quand
oui,
même,
c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même le droit du travail
qui est un peu plus flex. Et donc, du coup, c'est vrai que nous qui étions très green dans tout ça, on n'avait aucune base. On n'avait jamais travaillé en restauration. On avait juste l'envie d'eux. Bah, tu vois, ça nous a permis quand même assez rapidement avoir des postes où on a pu avoir les mains dedans. Sarah, c'était un peu plus tôt que moi, et moi quand j'ai eu envie d'y aller, bah pareil, c'était vraiment à l'envie. Alors il faut se prouver, c'est sûr qu'après on te donne ta chance et il faut la convertir, mais c'est vrai que ça, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu ce parcours dans des pays anglo-saxons où ils mettent quand même vachement l'accent sur l'envie, quoi.
Oui, sur la capacité. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que justement dans vos recrutements, vous allez donner sa chance à des personnes qui ont pas du tout d'expérience? Alors tu as dit oui, en effet, que c'est quand même bien d'avoir un peu d'expérience, ça fait gagner du temps. Ça, je pense que c'est vrai pour à peu près tous les secteurs. Mais est-ce que quand même t'essayes de faire l'effort de dire bon bah il a pas d'expérience, mais je vais y aller?
Bah, vu que je raconte cette histoire souvent et que maintenant ça se sait que notre parcours c'est celui-ci, il y a des gens qui l'utilisent en entretien et disent je sais que Sarah et toi vous machin c'est une reconversion voilà etc. Et techniquement c'est pas vraiment une reconversion parce que moi j'ai jamais été monteur professionnel, en fait je suis jamais arrivé à ce stade-là. C'est pas comme si j'avais 10 ans dans l'audiovisuel et qu'après j'ai dit je vais ouvrir un restaurant. À la fin de mes études j'ai décidé de faire un changement de cap, mais donc c'est pas vraiment une reconversion. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui entre guillemets utilise ça, c'est mignon hein, en entretien. Et du coup oui, on a donné leur chance à des gens qui avaient pas d'expérience et il y a pas de règle. Des fois ça peut devenir quelque chose d'incroyable, quelqu'un qui avait voilà qui arrivait chez nous et qui avait l'envie et qui était là pour faire des heures et apprendre et tout donner et qui se sont vraiment épanouis et qui sont devenus des gens de la restauration super compétents. Et il y a des gens chez qui malheureusement l'envie a pas suffi. Et puis après il se passe autre chose aussi, c'est une espèce de conception de la restauration dans la tête des gens qui vont avoir fait, mais je le vois hein, vraiment, s'il y avait un graphe ça se verrait au travers des années 2013-2014 jusqu'à maintenant, une augmentation de gens qui ont un ras-le-bol de ce qu'ils font, de boulot super virtuel dans la musique, la mode, la presse, qu'est-ce que j'ai encore, enfin tu verrais les emails, je les garde plus, mais il y a, c'est une tendance vraiment des gens qui disent ça fait j'ai 10 ans dans tel métier ou je suis dans la musique depuis tant et j'ai envie de faire un truc avec mes mains en fait, et les gens reviennent vachement sur, ils ont envie de donner du sens à leur vie. Ça fait c'est un peu tu vois de dire ça, mais c'est vrai hein, c'est eux-mêmes le disent, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'être au contact des gens, j'ai envie de travailler, d'être sur mes pieds, etc. Et des fois souvent en fait quand tu donnes une chance à ces gens-là, ne serait-ce que sur une journée d'essai, tu vois dans leurs yeux qu'ils sont là, ah en fait c'est pas ce que je pensais que ça allait être, tu vois. Et parce que Instagram donne aussi une certaine perception de notre métier. Moi, j'essaye d'être au plus proche, de pas vendre du rêve. Effectivement, ça se passe bien. Effectivement, Holy Belly, c'est une expérience de restauration qui, je pense, est plus confortable que dans certaines autres maisons. Mais ça reste quand même des heures, du travail, de la difficulté, des portes de charge, des, j'en sais rien, tu vois, une chaleur, enfin, de la restauration, ça reste quand même. Donc, même si tu mets tous les curseurs à fond pour que ce soit plus confortable et plus agréable, ça reste quand même fondamentalement deux restaurants.
On le dit beaucoup aux entretiens aussi, hein. Souvent, les entretiens, c'est un peu un grill où on dit genre, t'es sûr que tu veux venir travailler parce que genre nous on fait ça et tu vois,
oui, et puis il y a aussi
on essaye aussi de donner les, parce que c'est vrai qu'Instagram ça peut donner une image erronée.
Instagram plus un peu la starification des chefs qui est passée par Top Chef et compagnie,
c'est sûr. Nous voilà, on essaye mais ça c'est vraiment, on l'a appris sur le tas hein. Tu sais, même le process d'embaucher maintenant, ça y est, on a un process. Au bout de 7 ans, je te dis, on a embauché 90 personnes, donc je sais pas combien d'entretiens on a fait, mais maintenant Maintenant, voilà, effectivement, il y a une grande partie de l'entretien est passée à remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure ou les points sur les i, ou entre guillemets, essayer de recadrer au maximum pour pas qu'il y ait, en fait, pour éviter la déception de tout le monde. Notre déception, la déception de la personne qui veut venir travailler chez nous, pour vraiment recadrer et dire, voilà, Instagram, c'est une chose et c'est vrai, on ment pas sur Instagram, il y a vraiment une bonne ambiance et tout, mais oublie pas quand même que ça reste quand même un métier.
Ça ne sera jamais un métier facile, c'est un métier difficile. L'ambiance est bonne et voilà, on essaye de mettre les curseurs au maximum pour que ce soit le plus agréable possible, mais ça reste des métiers difficiles,
répétitifs, on n'invente pas des recettes
physiques,
voilà. Restes 10 heures par jour debout potentiellement,
créativement parlant, oui, de temps en temps il y a un nouveau plat qui va sortir, il va y avoir de la recherche sur un nouveau produit, il va y avoir des réflexions sur des cuissons, mais je veux dire, on fait quand même aussi beaucoup de fois la même, enfin quand je dis on, je m'inclus pas parce que je suis pas en cuisine, mais c'est beaucoup de répétitions quoi.
Non mais même en salle ou même, partout, même nous on répète tout le temps les choses, enfin, c'est beaucoup de répétitions.
C'est important de le dire. Nicolas, je voudrais qu'on revienne à toi, ton passage de monteur à restaurateur. Du coup, tu nous l'as pas encore raconté. Comment est née cette envie? Donc tu vas voir Sarah, tu vas la chercher, ça te
Ouais, je suis attiré par ça vraiment. J'ai toujours eu une nature assez bavarde, humaine. Moi, je suis fils unique. J'en ai jamais souffert, mais du coup, je me suis toujours fait beaucoup de copains rapidement. Et de par le boulot de mon papa qui était dans l'armée, il est pas décédé, il est juste à la retraite, mais du coup, moi, il était militaire de carrière. Et du coup, on bougeait tout le temps. 3-4 ans, 5 ans, on partait. Donc, j'ai dû changer 3-4 fois d'école, des fois en cours d'année. Donc, c'était un truc un peu compliqué.
Mais tu voyageais à l'étranger ou c'était
en France toujours, mais tu vois, il fallait recommencer une scolarité à chaque fois. Donc, voilà, bref, tout ça pour dire que j'étais toujours un peu dans le fait de rencontrer des gens et de se faire des copains rapidement. Donc, quand j'ai commencé à aller chercher Sarah après le boulot, d'accord, cet endroit, je voyais les gens un peu échanger, les mecs derrière le bar et tout, j'ai attiré quoi, vraiment, ça me plaît, parce que moi j'étais tout seul, moi aussi je m'étais trompé en fait au final sur, moi aussi j'avais eu une mauvaise perception de ce que c'était être monteur, j'étais grand fanat de cinéma, je regardais énormément de films, je voulais en faire ma vie, je réalisais des petits courts-métrages avec mes potes, etc, mais on était toujours ensemble, on était ensemble à la conception, on était ensemble au tournage, on était ensemble au montage, j'étais jamais seul, mais après professionnellement je me suis rendu compte qu'en fait en tant que monteur t'es assez solitaire en fait, c'est toi plus un ou plus deux, c'est beaucoup d'heures dans le sombre, c'est les salles de montage qui sont obscur, etc. Et c'est plutôt des métiers qui sont orientés pour pas du tout ma nature en fait. Moi j'aime bien travailler avec des gens, etc. Et j'étais surpris en fait. Je me disais merde, en fait le montage, j'aime ça. Techniquement, je suis assez bon monteur, j'aime bien monter, mais je suis tout seul, je suis triste en fait. Voilà, bref. Et du coup, donc Sarah, en allant la chercher au Legion, etc., je retrouvais un peu ce truc. Oh, tu peux bosser, parler à des gens, être dans une équipe, etc. Donc il y avait une graine qui était clairement là. Et après, j'ai fait beaucoup de photos aussi parce que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et je faisais des photos pour Kinfolk Magazine. Au tout début, Kinfolk était une petite publication. Maintenant, c'est un gros truc. J'étais dans le Kinfolk numéro 2, 3, 4, 5 au tout début. Et ils m'avaient demandé de faire... c'était l'époque où on venait d'arriver à Melbourne. Et je leur ai pitché une série de photos sur le monde du café, en fait. Parce qu'à Melbourne, autant Vancouver, ils sont chauds. Autant Melbourne, ils sont vraiment très chauds. Ils sont ils ont un niveau... Donc, et puis c'est beau, c'est des endroits qui sont beaux, les cafés melbourniens, c'est les gens qui font ce café sont beaux, les méthodes d'extraction sont belles.
Le cliché de l'Australie.
Ouais, c'est vraiment beau, mais tu vois, mais vraiment visuellement, d'un point de vue vraiment objectivement visuel, il y avait vraiment un truc à faire. Donc je leur ai dit, grave, au début ça devait être 4 méthodes d'extraction dans un magazine, et après on l'a étalé sur 4 magazines, bref. Et en fait, en passant énormément de temps avec ces gens-là pour les photos, ça a fini de me vendre le truc. Je me suis dit, j'aime trop, en fait.
Mais attends, là, t'es passé quand même de Vancouver à l'Australie, sans transition.
Vancouver, en fait, au final, j'ai rien fait là-bas dans le monde de la restauration. Ça a commencé là-bas.
Pourquoi vous allez en Australie?
Parce qu'il y avait beaucoup d'Australiens à Vancouver, en fait. Okay. Parce que vu qu'Australie est une île et qu'ils sont loin de tout le monde, ils ont tendance à voyager énormément. Et beaucoup vont à Vancouver, en fait.
Quand notre visa a expiré après 2 ans et demi à Vancouver, moi j'avais pas envie de rentrer en France encore, j'avais envie de voyager encore, et des copains australiens nous ont dit, si vous aimez le café et si vous êtes un peu attiré par cette restauration, venez à Melbourne, vous allez adorer. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé.
Donc, sans transition, sans repasser par la France, en tout cas, vous êtes allé à Melbourne.
Non, si on veut vraiment raconter toute l'histoire, c'est un des moments dans notre vie où on n'a pas été d'accord. Sarah, elle avait encore envie de voyager, elle n'avait pas envie de rentrer. Moi, j'étais assez chaud pour rentrer. Et du coup, j'ai tenté de rentrer seul. Sarah devait partir en Australie un an, donc c'est un peu triste tout parce qu'on était là, on va pas se voir pendant un moment et tout. Mais bon, on n'avait pas les mêmes envies et on s'est dit que si on se force, si elle se forçait à rentrer parce que moi j'avais envie de rentrer aussi, moi je me forçais à aller en Australie parce qu'elle avait envie d'aller en Australie, à un moment il y allait avoir de, tu vois, ça allait ressortir.
Voilà, on n'avait pas envie 10 ans après de dire je t'ai suivi alors que j'avais pas envie je suis rentrée alors que.
On a chacun suivi nos trucs, donc Sarah est partie d'abord à Melbourne, moi je suis rentrée en fait j'ai à Lyon. Parce que mes parents étaient à Lyon et j'ai cherché un appart, j'en ai pas trouvé, ça marchait pas quoi, tu sentais que ça cliquait pas, j'avais vachement changé dans ma tête en 3 ans à Vancouver, du coup la France, j'arrivais, je sais pas, j'aimais plus, j'ai passé 3 mois qui étaient pas dingo et je me rappelle c'était décembre, c'était Noël et j'ai dit à mes parents étaient déjà couchés, moi j'étais tout seul et j'ai pris des billets pour en ligne pour New York parce que j'étais jamais allé à New York de ma vie, en bon gamin des années 90, j'ai mangé de la pop culture américaine toute ma jeunesse et je me suis dit je vais aller à New York. Donc je suis allé 3 mois à New York tout seul, le maximum du visa touristique pendant 90 jours. J'ai fait du couchsurfing tout seul. Et mais on se parlait, on était toujours ensemble, mais du coup ça arrêtait à Melbourne et moi j'étais à New York. Et je suis parti comme ça sur un coup de tête un matin. Et après, au bout de mes 3 mois à New York, je suis allé rejoindre Sarah à Melbourne. C'est ça, c'est la vraie histoire.
Et dans la vraie histoire, Sarah, tu te dis pas, au lieu d'aller à New York, tu pourrais venir me voir à Melbourne?
Non, c'est un moment dans notre vie où on n'a pas eu envie des mêmes choses.
Ouais.
Et du coup, ça paraissait pas logique dans, on s'est dit, qu'on se sépare. D'ailleurs, tout le monde était là, mais du coup, vous êtes encore ensemble ou pas? Je comprends pas. Pourquoi vous allez pas au même endroit? Et on était là, mais on n'a pas envie d'aller au même endroit. On reste ensemble et voilà, un an, c'est long et à la fois, c'est pas si long que ça. Donc,
Et donc, toi, t'arrives à Melbourne, qu'est-ce que tu fais?
J'hallucine de voir les endroits, les cafés, j'envoie des... C'était quoi que je t'envoyais des liens de Broadsheet à l'époque, tu te rappelles?
Ouais, Broadsheet, c'est une publication,
c'était
un peu comme c'est un peu comme le fooding, mais en moins politique, quoi. C'est,
voilà, ouais.
Tel café fait ça, avec des jolies photos et tout. Elle m'envoyait, tu m'envoyais beaucoup de liens.
Des plats, des photos, des espaces et tout. Et je me dis, mais c'est dingue, c'est fou, ces cafés, ces ambiances, cette nourriture du matin, les cafés bondés des 9h, de gens qui mangent du salé, qui boivent du bon café. Et
oui, quelque chose qu'il n'y avait pas du tout en France, mais pas à Vancouver non plus.
Non, pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. C'est beaucoup plus de la vraie nourriture de chef, de cuisinier, quoi, qui te cuisine un truc dès le matin. C'est moins des petites pâtisseries ou des trucs un peu rapides, tu vois. Et du coup, quand Nico m'a rejoint, on a fait le tour des cafés. Et t'as un peu halluciné aussi.
Ouais, j'ai halluciné aussi. Ouais. Je m'en rappelle, le premier, vraiment, pareil. Je me rappelle, c'était Auction Room. J'étais arrivé un peu déphasé parce que c'est loin, l'Australie aussi, et on se rend pas compte, mais c'est un long vol, c'est 2 longs vols. Et c'était un peu, j'étais vraiment, c'était dingue, vraiment une sorte de sensation de pas avoir dormi. Et donc Sarah m'emmène prendre le petit déj dans cet endroit-là, Auction Room, qui est un endroit magnifique, une ancienne salle aux enchères immensissime, des espaces comme ça, comme on n'a pas à Paris, quoi. C'est, ils ont la surface aussi, mine de rien, ça permet des choses, quoi. Et donc du coup, je rentre et je vois, déjà pris par la taille du lieu, et puis après, je me rappelle, sur la droite, il y avait une grande cuisine ouverte avec genre 8 chefs, tu sais, tous en tenue, machin, mais il est 8h, quoi, tu vois, enfin, c'était tôt, et c'est plein, et ça sent la nourriture, tu vois, ça sent vraiment la bouffe, et le café, et il se passe un truc, quoi, c'est difficile à raconter, mais c'est vrai que je me dis, c'est quand même incroyable, et on se pose, et on mange, et je me rappelle, j'ai mangé un truc un peu d'influence un peu marocaine, et on buvait un café qui était dingue, et les baristas, je les regardais bouger, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, vraiment, je te jure, vraiment, c'est dur à raconter, mais c'est vrai que ça nous a impressionné, quoi. Ça, on était impressionnés.
L'ambiance et le workflow de ces espaces qui ont un gros service, mais où tout le monde a sa place, tu sais, c'est un ballet de serveurs, de cuisiniers, de baristas. Enfin, c'est super joli, encore aujourd'hui, quand on regarde nos restaurants tournés, des fois, on se dit, putain, mais c'est trop beau, enfin. Tu vois,
Et du coup, toi, les 3 premiers mois, avant que Nicolas te rejoigne, tu travailles dans un café, qu'est-ce que tu fais?
Non, j'étais, en arrivant, j'ai, fait pas mal de garde d'enfants. Enfin, j'étais un peu en mode, juste je découvre.
Petit boulot, quoi.
Ouais, petit boulot, ouais.
Ok. Et alors, quel est le déclic qui se passe derrière après ton arrivée?
Je sais plus ce qui nous a décliqué du coup. Moi, j'ai continué à faire pas mal de... Je continuais à faire pas mal de freelance en photo, de trucs comme ça. Tu vois, ça payait bien, j'aimais bien. Et après, je suis devenu un peu fatigué, tu sais, du... Les freelances, ils comprendront. Tu sais, c'est ce retour client. Tu vois, tu envoies quelque chose. Après, le client, il dit, bah non, on voulait plus ça, machin et tout. Puis, j'étais encore une fois super seul, en fait. J'avais un bureau, tu vois. On louait un pigeonnier, d'ailleurs, sur un toit. Et Sarah, elle faisait des meubles en carton.
Ah oui, c'est vrai. Pas oui. Souvent, oui.
Mais elle faisait beaucoup de meubles en carton. Donc, elle, d'un côté.
C'est-à-dire des meubles en carton?
Du mobilier en carton. Tu sais, tu récupères du carton et il y a toute une technique pour faire des vrais meubles en carton. Genre, okay. Mes parents ont encore un meuble de salle de bain que j'ai fait à mes 15 ans, tu vois.
Incroyable.
Donc, Sarah, on louait un pigeonnier. Et moi, j'avais mon bureau, je faisais mes photos, mes trucs. Sarah, elle faisait ses meubles, elle vendait quelques pièces. Et
oui,
voilà,
c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, j'avais oublié.
Moi, à un moment, j'en ai eu marre de faire ce que je faisais. Puis, il y a eu ce truc avec Kinfolk et voilà, j'avais vraiment un pied dans le café. Toi, Sarah aussi, je crois que t'étais prête à retourner à faire de la cuisine. Et à un moment, ça y est, nos flux se sont realignés. On a eu envie de la même chose. Et voilà, moi, j'avais vraiment envie que ça marche, d'apprendre ce métier de barista, d'être dans la restauration. Et toi, Sarah, d'y retourner. Donc, toi, t'as commencé à Auction Room, à faire quelques journées
là-bas.
Là,
c'était plus compliqué de mettre le pied dedans parce que si tu veux, c'est toujours plus facile d'aller en cuisine quand t'es rentré dans le... Déjà, quand
t'es l'établissement.
Dans l'établissement, voilà. Et là, du coup, j'étais pas rentrée dans l'établissement. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui me prenne, voilà. Donc, j'ai fait... Au début, j'ai juste dit, est-ce que je peux venir gratuitement, quoi.
On a bossé gratuit tous les deux.
Ah ouais, ouais.
Ouais, ouais, bah ouais, parce que c'était une époque où ils n'avaient pas besoin de...
Non.
Ils ne recherchaient pas vraiment, tu vois. Et moi, j'avais aucun savoir-faire là-dedans. Du coup, j'avais rien à proposer, quoi, tu vois.
Ouais. Donc, c'est dur de dire, est-ce que vous pouvez me prendre sans trop d'expérience et en plus me payer, c'est pas facile. Le plus simple et le plus rapide, c'est de dire que tu viens gratuitement.
Et ils vous ont donné, du coup, votre chance à tous les deux.
Sarah, ouais.
Ouais.
Et moi, j'ai galéré vraiment à me faire former parce que il y avait vraiment un truc de formation, tu vois. C'est quand même technique faire du café, donc j'ai dû trouver une sorte de mentor, quelqu'un qui m'apprenne. Et il y avait personne de très motivé. Et on en revient à ce truc d'avoir vraiment la dalle et de l'énergie. Et je les ai fatigués.
L'attitude,
quoi. J'étais vraiment
tout
le temps là à demander machin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ok, je vais t'apprendre. Et du coup, j'ai commencé à un endroit qui s'appelait Duchess of Spotswood, qui était dans une banlieue de Melbourne qui s'appelle Spotswood, qui était toute petite. Et il y avait ce café vraiment une sorte d'oasis. Enfin, il y avait rien dans cette petite banlieue à part ce truc. Et ça avait été commencé par un chef anglais et sa femme qui était de Nouvelle-Zélande, je crois. Et lui, il avait vraiment travaillé dans les grandes maisons. Il avait vraiment, enfin, c'était vraiment le chef, quoi. Techniquement, était très bon et tout. Et bref, l'histoire est longue, mais je finis par apprendre à faire du café là-bas avec une personne qui s'appelait Taylor et qui m'apprend. Et un jour, donc moi, je commence à me former. D'ailleurs, je me rappelle, on a même ouvert une bouteille de champagne dans notre pigeonnier le jour où on m'a dit c'est bon, tu peux venir te former ici, parce que j'ai tellement galéré à ce qu'on me dise ok, viens, je t'apprends. Je me rappelle, on a vraiment bu un coup, quoi.
C'était pas aussi facile quand même qu'à Vancouver,
non,
où là on donnait ta chance.
Il y avait c'était déjà saturé.
C'était un peu saturé,
quoi,
je pense aussi que le volume était tel, dans tous les cafés il y avait un énorme volume, et du coup même si tu viens en cuisine gratuitement, en fait tu prends de la place.
Ouais.
Et je le vois aujourd'hui à Libéli, c'est vrai qu'on a une place pour quelqu'un qui sait pas trop et qu'on peut former, mais pas deux, quoi. Même si quelqu'un venait gratuitement, il n'y aurait pas de place.
Ouais, tu prends de la place.
Il n'y aurait pas plus de place, ouais.
Et Duchess, c'était incroyable. C'était vraiment de la grande cuisine, mais du matin. C'était fou, cet endroit. Les gens de l'époque t'en reparleront. C'était vraiment excellent. Le meilleur endroit pour le petit-déj, vraiment. Et un matin, j'entends, parce qu'on commençait super tôt. Tu sais, là-bas, les endroits ouvrent à genre 7 heures. Et en cuisine, j'entends que ça dit, il nous faudrait quelqu'un quand même en cuisine et tout. Et du coup, je dis, ma copine, voilà, elle cherche, là, elle est à Auction Room. Mais bon, elle a pas beaucoup d'heures et tout. Et ils ont dit, vas-y, qu'elle vienne demain. Ça commence à 4 heures, je crois, ou à 5 heures.
Ah ouais.
Tu vois, un truc comme ça.
Ouais,
elle est venue. Et après, elle a tenu. C'était des horaires de ouf. Enfin, je crois que vous commenciez à 5 heures.
5 heures, ouais.
Après, même un moment, vous y êtes jusqu'au dîner. Enfin, c'était des.
Ah oui.
T'as pas lâché,
ouais,
t'es resté.
C'était ouvert pour le. C'était pas un établissement de petit déjeuner, c'était vraiment tous les services de la journée.
Ils ont essayé, au début c'était midi, matin-midi, après ils ont fait le soir.
C'est juste un moment, ils ont fait le soir, mais à la base c'était comme quand même petit-déj, on ouvrait à 7h quand même, petit-déj, et ça fermait vers 15h. Puis ouais. À un moment, ils ont décidé de faire le dîner, donc là, ça a été un peu plus le bazar, parce qu'il y avait deux équipes, et que c'était des heures beaucoup plus longues et tout, mais oui, en soi, du coup, j'étais là quand ils ont fait le dîner, donc j'ai vu le panel petit-déj, déj, dîner, quoi.
Et alors, toi, malgré ces difficultés et ces heures harassantes, ça te plaît, quoi? T'es convaincue que c'est ça?
Ben oui, c'est incroyable. Enfin, ça nous a. Dutch Hess, c'était vraiment, vraiment un endroit très spécial parce que c'était vraiment un endroit de petit-déj, mais avec un chef qui a travaillé dans des maisons étoilées et tout, donc qui rajoute toute sa touche et toutes ses exigences au registre du petit-déjeuner. Donc. Avec des super produits et tout. Enfin, moi, ça m'a ouvert les yeux complètement sur aussi, encore une fois, d'où on venait en France. C'est un peu genre, t'as cette recette-là. Tu vas pas aller twister un truc qui est traditionnellement parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Et là, c'était incroyable de se dire, bah, en fait, en Australie, comme ils ont pas vraiment de patrimoine culinaire, bah, ils créent des choses. Et
ils vont chercher un peu partout.
Ils vont un peu chercher partout. Ils sont pas cantonnés à un registre spécifique. Ils goûtent. Ils cherchent des bons ingrédients. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en France on avait tellement de bons ingrédients et que c'était plus compliqué l'accès au bon fromage, au bon beurre et tout. Et du coup ils cherchent plus, en fait. Ils se reposent moins sur leurs acquis.
Et t'as des exemples de recettes qui t'ont un peu marqué, comme ça, hyper originales?
Il y a eu tellement de choses. Tu te souviens d'un truc?
Il faisait un truc qui s'appelait le Melbourne Storm, je me rappelle, qui était trop bon avec tapioca et tout. C'était tout dingue. Et...
ouais, c'est vrai, ça, c'était super frais et bon l'été. Il faisait un truc au yaourt de coco et à la tapioca, hyper léger. Il travaillait aussi pas mal les abats.
Beaucoup d'abats, ouais, c'est vrai, beaucoup d'abats. Ils faisaient leur propre boudin. Le matin à 5h, il y avait des grosses casseroles pleines de sang et tout.
Il fallait avoir le cœur bien accroché à 5h du matin.
Il était anglais, il avait vraiment un truc pour les abats.
On faisait tout nous-mêmes. En fait, ça aussi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, en fait, tu peux faire tout du produit brut, tu vois. Tu vas pas aller dire, ah oui, non, mais ça, c'est fait maison. Mais en fait, avec un truc que j'ai acheté, je sais pas si tu vas... J'en sais rien. Il faisait pas du tout du cheesecake, mais c'est l'exemple qui vient en tête. Mais tu sais, quand tu fais un cheesecake, tu fais une crust avec un biscuit. Mmh. Et ben, tu fais le biscuit, en fait. Acheter le biscuit parce que sinon, c'est pas fait maison, tu vois.
Mais c'est vrai
d'aller jusqu'au bout du produit, d'aller chercher le produit brut. Mmh. Et ça, c'était vraiment, Dutch Hess, c'était vraiment ça.
Mmh. Et combien de temps vous restez là-bas?
On a réussi à tricher un peu. Les visas, c'était compliqué parce que PVT, c'était un an.
On a réussi à avoir un an et demi en plus.
Après, on a fait un an et demi. On a demandé un an et demi en plus qu'on a obtenu. Ouais. Emploi de perfectionnement, je crois que ça s'appelait. Après, ça a commencé à sentir pas bon. Ça a commencé à être la fin du visa. On est allé voir une avocate de l'immigration. On a dit qu'on aimerait bien rester. Mais eux, ils ont une liste d'immigration avec des métiers. Et cuisinier, c'était clairement pas sur la liste parce qu'ils en ont suffisamment. Il aurait fallu qu'on refasse nos anciens métiers pour pouvoir avoir un visa qu'on voulait pas faire. Et du coup, on a un peu dépassé notre visa, on va dire. On n'est pas parti quand on aurait dû. Et on a réussi difficilement à faire à peu près 3 ans en combinant 2 visas et en traînant un peu les pattes à la sortie. On a fait à peu près 3 ans. Ouais.
Et vous êtes resté combien de temps chez Dutch Hess?
Moi, je suis restée plus longtemps que toi.
Ouais, Sarah, en fait, moi, je suis arrivée avant, mais Sarah, elle est restée plus longtemps. Moi, en termes de café, en fait, à un moment, ils m'ont tout appris, donc je leur suis pour toujours reconnaissant. Mais à un moment, j'ai été à un plateau parce qu'il y avait plein de choses qu'ils faisaient pas. Ils faisaient pas de café filtre. Ils torréfiaient pas. Ils faisaient pas tous ces trucs-là. Donc, à un moment, au bout d'un an, j'étais un peu au max. Et vu que ça y est, maintenant, j'avais un peu un truc à proposer et que j'avais faire et que j'étais plutôt sympathique, etc. Il y a un autre coffee shop qui était très qualitatif aussi qui s'appelle Market Lane. Les gens qui aiment le café connaîtront. C'est vraiment, alors eux, ils achètent, ils torréfient, ils sont vraiment très café. Et il y avait un opening là-bas. J'avais une copine qui m'a mis au parfum là-dessus. Et du coup, j'ai un peu sauté de navire. Et, parce que, en fait, mais vraiment assez égoïstement, ce qui était pas très cool pour Dutch Hess parce qu'en plus, il m'avait complètement formé. Et c'est vrai que nous aussi, on l'a déjà vécu, ça, quand tu formes quelqu'un et qui, maintenant, je le vois avec mes yeux d'employeur aussi, tu vois. À l'époque, moi, j'étais très moi. moi, j'avais mon but, je voulais ouvrir un café, il fallait que je me forme rapidement, j'étais déjà arrivé sur la restauration sur le tard. Je me rappelle, mais j'avais écrit une lettre à Andy et Bobby parce que c'était les patrons de Duchess comme moi et Sarah. Et ils avaient quand même investi dans moi beaucoup et c'est vrai que il y avait un peu de culpabilité sur le fait de partir au bout d'un an, mais je leur expliquais que voilà qu'il fallait que j'apprenne un maximum avant que mon visa se termine et tout. Et donc je suis parti chez Market Lane et j'ai fait un an et demi chez Market Lane après où j'ai appris énormément sur le café. Et on n'imagine pas les volumes de café qu'ils font à Melbourne et ça pour un barista c'est extrêmement formateur parce que t'es deux sur la machine et à 6h30 du matin il y a la queue et t'envoies papa. Et ça du coup en termes de réflexes, même des mains, des muscles, tu fais tout automatiquement, après tu deviens une machine, une bonne machine. Et c'est vrai que quand on est rentré à Paris et que Olivelli a commencé à être vraiment très, il y a eu beaucoup de monde à Olibelli, bah on a pu gérer parce que moi j'avais cette formation de volume et de qualité parce que tu peux faire les deux et ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, c'était triste de quitter Andy et Bobby au bout d'un an, mais je suis content d'avoir fait ça parce que ça, je suis revenu bien armé et Sarah elle est restée jusqu'au départ.
Ok. Ouais. Et ta sensibilisation en termes de qualité, notamment du café et environnementalement parlant, là-bas on en parlait déjà ou pas particulièrement, c'était vraiment la question du goût qui avant tout.
Je trouve qu'ils ont une façon d'approcher le café qui est bonne dans le sens où ils savent ce qui est bon, clairement ils savent ce qu'il faut boire, mais ils sont pas du tout condescendants à ce propos, tu vois, ils vont pas te dire, enfin il y a aucune attitude, ce qui est super agréable. Par exemple, moi qui était passé par New York, tu vois, et donc j'avais habité à Brooklyn et tout machin. Il y a cette espèce de cool un peu omniprésent qui peut te mettre mal à l'aise en tant qu'étranger ou de personne qui sait pas boire du café ou du bon café. Moi, je l'ai ressenti plus tard avec le vin, par exemple. Bon, on m'a toujours fait me sentir mal à propos du fait que j'y connaissais rien en vin. Et c'est vrai qu'en France, je trouve que voilà, on a, même dans le milieu du café, moi, j'ai toujours fait un effort à Olibelli pour que tout le monde se sente bien et pas, voilà, tu sais, dès que quelqu'un passe la porte, attention, ici, on fait le café comme ça ou machin. Enfin, bref. Et donc, c'est vrai qu'à Melbourne, pour revenir à ta question, ils étaient clairement conscients de l'effort qu'ils faisaient sur le sourcing, sur le fait de torréfier correctement pour pas défaire tout le travail de la chaîne d'avant. Bref, ils avaient vraiment ce savoir-faire, mais leur façon de le transmettre, elle était super bienveillante en fait. Mmh. Et c'est vrai que j'ai regretté. Et moi, je suis assez distant de la scène café à Paris. Les gens que j'aime bien dans le café, il y en a pas beaucoup. Et je pense que ce qui m'a toujours tenu à distance de cette scène café, c'est qu'il y a beaucoup, il y a quand même, il y a pas beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup d'attitude. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au final, ça ferme la porte à beaucoup de gens.
Tu veux dire d'attitude de concurrence?
Crée une distance entre le client et eux-mêmes en fait parce qu'ils savent plus, parce qu'ils connaissent mieux, alors que j'appréciais ça à Melbourne, c'était une sorte de porte ouverte sur viens je te montre, viens je t'explique, viens je te fais goûter. Et c'est vrai que quand on est rentré en 2013 et les coffee shops qu'on suivit, il y avait certains coffee shops qui étaient bienveillants mais tout de suite il y avait ce côté là tu sais pas ce que c'est le bon café, voilà, etc. Bref, et c'est un autre débat et c'est vrai que je l'ai ressenti dans le vin plus tard. Et voilà. Et donc nous, on a toujours essayé d'être, voilà, parce que tu posais la question.
C'est vrai que c'est intéressant de proposer des bons produits sans être trop snob, quoi. Tu vois, ça reste quand même de la nourriture, un truc qui doit rassembler les gens. Nous, on a toujours voulu faire un truc quand même assez bonne ambiance et bonne franquette avec des bons produits, parce que c'est ce qu'on aime faire. Mais ça sert à rien de trop mettre une distance et de dire genre oh non mais tu goûtes pas bien enfin
tu sais pas de quoi tu parles.
Voilà,
ouais. C'est vrai que c'est
Melbourne, dommage c'est parce que du coup ça n'inclut pas les gens ont un peu peur d'aller dans ces endroits là.
Bah je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport au vin en tout cas. C'est vrai que sur le café je pense que j'ai pas la technique, enfin on en parle moins parce que c'est peut-être, je sais pas si c'est moins accessible, mais en tout cas on en parle moins en France que le vin, mais sur le vin tout à fait. Donc vous rentrez en France, là vous dites direct OK, on monte un café.
Ah oui, au moment où on est rentré, on s'est bien préparé à retourner en France, ce qu'on n'avait pas trop fait quand on est rentré de Vancouver brièvement, on s'est pris un bon on avait changé et on se souvenait plus que la France c'était comme ça et que ça allait
ça
a un peu clashé, ouais. Et du coup là, quand on est rentré de Melbourne, on s'est dit on veut ouvrir un commerce en France, mais préparons-nous à ce que ce soit pas simple parce que la France, tu te souviens, c'est bien, il y a beaucoup de petites cases. Du coup, on s'est dit si on veut faire ça, il va falloir se repréparer psychologiquement à ce que ce soit dur, qu'il y ait beaucoup de paperasse, etc.
Mais vous vouliez rentrer, vous vouliez pas aller ailleurs.
Bah on a essayé de rester quand même.
On a essayé de rester à Melbourne,
mais c'était pas possible.
Ouais. Et après, on s'est dit ouvrir un café à Melbourne où il y en a déjà des milliers super bien, ou ramener cette expérience, ramenons ce petit monde qu'on aime bien chez nous, en France, parce que c'est quand même la France chez nous, et faisons un peu découvrir ce monde-là, ouvrons un endroit qui nous ressemble, dans lequel on se sentira bien, à la maison, quoi.
On avait déjà beaucoup préparé au moment de partir. En gros, quand on part de Melbourne, on avait plus ou moins Libelli dans la tête, parce qu'on avait à peu près les mêmes jours de congé. On s'était arrangé pour avoir les deux
le
mêmes
lundi,
jours.
Le lundi ensemble.
Et donc
ensemble.
On avait un rituel le lundi. En plus, on avait déménagé à Port Melbourne, qui était juste à côté de la plage. Et en fait, du coup, c'était un peu notre rituel. On faisait des maxi balades sur la plage, ce qui était très cool. Et en fait, on savait pas, hein, mais on faisait déjà un énorme brainstorm de ce qu'on voulait, de ce qu'allait être notre endroit. Et donc, par exemple, de Duchess, il y a plein de trucs qu'on a pris, et il y a plein de trucs qu'on s'est dit aussi, on fera pas ça. Donc, voilà, c'est ça aussi l'expérience, c'est de te dire, ça ils font bien, nous ça on le fera différemment. Et en fait, bref, on s'est vachement concerté déjà, mais pendant presque un an avant de rentrer en France, hein, tous les lundis, c'était notre réunion, comme ça, on allait jusqu'à Sainte-Kilda et on revenait, c'était super long.
Mais sans le savoir. C'est après qu'on s'en est rendu compte de se dire, on a pratiquement fait le business plan.
Ouais, on se posait vraiment là où on nous a dit, ok, maintenant il faut, quand on est rentré en France, donc on s'est mis au RSA, tout de suite, on est allé voir Pôle emploi en disant, voilà, on veut ouvrir un business. On a cherché des ressources, il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à documenter vraiment notre parcours aussi, parce qu'on a regardé comment ouvrir un restaurant sur Google. Il y avait très peu de ressources. Et donc, nous, on a lancé un blog à l'époque où on a dit, OK, on va documenter du premier jour jusqu'au premier jour où on aura un client, du premier jour de réflexion au premier jour où on aura un client. C'est à peu près 9 mois.
Mais ça, c'est intéressant. Déjà, tu te dis, OK, ça va intéresser les gens, en fait, parce que des gens ont envie de monter des cafés. C'est quoi ton idée quand...
L'idée aussi, c'était qu'on avait dit à tout le monde sur notre chemin, à Vancouver et à Melbourne, un jour, on va rentrer, on va ouvrir un truc. On l'avait un peu annoncé, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que Libelli a toujours parlé anglais aussi. À une époque, on nous a taxé d'être un peu snob, et pourquoi on parle français à Paris, etc. C'est tendance, ça fait genre. Mais en fait, le choix de l'anglais, il s'est fait assez naturellement, parce qu'on s'était fait tous ses copains à l'étranger, et on leur avait dit, on va rentrer, on va faire ça. Et du coup, le blog, c'était pour eux, pour qu'ils voient qu'on avançait sur notre projet, celui qu'on avait dit qu'on allait faire quand on allait rentrer. Il y avait plusieurs fonctions pour ce blog. Il y avait ça, donc garder ce lien et leur montrer notre avancement. Ça nous a servi aussi après, bizarrement, à aussi prendre du recul sur notre propre avancement, parce qu'il y avait des moments où on se disait, en plus on avait fait le choix avec Sarah de pas travailler pendant qu'on montait ce projet, parce qu'on savait que si Sarah faisait 15 heures par jour en cuisine et que j'en faisais aussi pas mal en salle, etc., on n'aurait pas l'énergie pour ouvrir un lieu, et donc au lieu d'en prendre 9 mois, ça allait nous prendre 2 ans. Donc on avait fait le choix de vivre sur très peu, donc au RSA, dans un petit appartement de 16 mètres carrés dans le 20e. Et parce que notre projet, on voulait aller au plus vite possible, on voulait ouvrir un restaurant. Et donc du coup, ce blog nous a permis de partager cette ressource. Maintenant, il existe encore, et chaque étape, le déclenchement des prêts, démarcher les banques, écrire un business plan, trouver un fonds de commerce, signer un fonds de commerce, tout ça, on l'a documenté. Et en fait, ce blog, il a été un peu notre fil rouge perso. Il y a des moments où on se perdait, on disait, on en est où? J'ai l'impression qu'on a rien fait depuis 15 jours. Et en fait, on revenait sur le poste d'avant, on dit, ah, quand même, rappelle-toi, il y a 15 jours, on n'avait pas fait ça. Donc ça avance. C'était un peu notre baromètre. Et 9 mois après, on ouvrait la première version de Libelli, octobre 2013.
Et 9 mois, ça vous a paru long, ou justement, c'est pour vous, c'était rapide et les choses se sont bien enchaînées?
Les deux,
ouais, c'est un peu long parce qu'il y a plein de moments, en fait, où t'as rien à faire. Mais par contre, dès que le banquier t'appelle pour dire qu'il faut cette pièce, il faut lui donner tout de suite. Sinon, si tu lui donnes 2 jours après et que lui met encore 3 jours, etc. Donc, on essayait d'être hyper réactif, mais il y a plein de moments où on avait...
Ouais, il y a des moments où tu devais
attendre. On était en attente, voilà.
On avait tout fait et on attendait.
On attendait juste que quelqu'un nous relance sur quelque chose. C'était vraiment pour serrer au plus court l'ouverture, quoi.
Et vous le trouvez comment, votre fonds de commerce?
Notre fonds de commerce, on le trouve via un agent immobilier de Century 21, Eureka, donc le truc spécial resto. C'est mignon. D'ailleurs, nous, on était allé voir la banque avec notre business plan. On était allé voir la Société Générale, comme ça, on leur montre notre projet tout joli, de café, etc. Mais on n'avait même pas vu de fonds de commerce, en fait. On savait pas qu'il fallait d'abord trouver un fonds de commerce pour aller voir une banque. Et ils disent, mais là...
Oui, nous, on voulait savoir combien d'argent on a pour le fonds.
On voulait un budget, quoi.
Voilà, on voulait un budget. Et eux, ils nous disent, non, il faut que vous nous trouviez le fonds, que vous nous demandiez l'argent. Et là, on voit si on peut le faire et tout.
Donc, du coup, on a vu peut-être, on en a vu 30, 40, un peu partout dans Paris. des moches, des vraiment très moches, des voilà, enfin rien, pas de coup de cœur. Et même le Olivelli d'aujourd'hui, le premier, on n'était pas forcément in love, il était vraiment pas beau, la rue était pas fofolle.
C'est rue Lucien Sempé,
le premier. Lucien Sempé, juste à côté, et on n'était pas in love, et je me rappelle, on fait la visite, en fait, le mec voulait pas vraiment vendre. En fait, l'agent immobilier nous dit, bon, j'ai un client, il pense à vendre. Ça, c'est les bonnes affaires, parce qu'elle est pas listée. C'est une envie, quoi. Et donc, on va voir, et on sort de là, on dit, ouais, non, jamais de la vie, c'est chum et tout, machin. Et puis après, j'en parle à mon père, et il me dit, ah, quand même, il y a une extraction, parce que nous, on voulait faire de la vraie cuisine, voilà, et donc il fallait une vraie extraction, pas de la resto rapide et tout. Donc, il y avait ce critère d'extraction, il y avait le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent.
Que le prix était bon, enfin, c'était.
Et voilà, il rentrait, il cochait les cases, mais il était pas, c'était pas auction room, quoi. Tu vois, nous, on avait
ouais,
en tête,
voilà,
un peu
même
trop de Melbourne,
tête,
tu vois.
C'était pas du tout ça.
Voilà, et puis après,
Et puis, vous donnez quand même sa chance au lieu.
C'était le seul, en fait.
On s'est projeté, on s'est dit que là, il était moche parce qu'il était très plaqué, mais qu'en fait, à l'arrière, il y avait une verrière qui était couverte, que.
Peut-être. Non, il n'y a pas de verrière.
Il y avait une charpente, ouais, voilà, ouais. Sur mais laquelle là, on pouvait potentiellement mettre une verrière, peut-être.
Mais là, tout avait été plaqué. Tu pouvais toucher le plafond avec ta main. Enfin, c'était super oppressant. La cuisine était moche. Enfin, tout était moche.
La vitrine était très petite. Il y avait des petites fenêtres, mais si on essayait d'agrandir au maximum la vitrine, peut-être qu'on arriverait à rentrer plus de lumière. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi.
Donc, vous avez fait des énormes travaux.
On a fait des gros travaux. On a tout cassé. Et on a fait une soirée avec des copains, la dernière soirée du restaurant. Donc on l'a acheté, la signature était compliquée parce que le gars il voulait pas vraiment partir, il s'est levé, il a quitté la vente genre deux fois. Après quand il est revenu, nous on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le chèque de banque, donc il a fallu refaire un rendez-vous pour la vente. Enfin c'était compliqué. On a appris, hein, on était bébé quoi. Et voilà, et on finit par avoir les clés de ce lieu. Le mec en fait le jour de partir, il avait rien vidé. Du coup, on se retrouve à l'aider un peu à faire ses cartons et puis
hyper émotionnel de quitter ce lieu et nous on est là mais tu nous l'as vendu.
Ça
maintenant c'est à nous
toi.
Donc
mais ça reste notre propriétaire, donc c'est compliqué.
Oui, mais ça reste notre propriétaire. Bref. Des murs, ouais. Donc ouais.
Et voilà, et puis après les travaux commencent, je me rappelle toujours c'était un lieu, c'était ce restaurant qui était voilà ce qu'il était et arrivent les gars du chantier. Nous, on part déjeuner au verre volé, je me rappelle, avec tes parents. Et on dit, bon, bah voilà. Et on revient juste un déj après. Ils avaient tout démoli, genre en 4 heures, ou enfin en 3 heures, ou le temps d'un long déj. Et là, on a commencé à kiffer parce que ça y est, ça devenait chez nous, en fait. C'était plus ce restaurant, ça devenait autre chose. Ils avaient tombé les faux plafonds, ils avaient tombé le plaquage, ils avaient... Et on commençait à voir, OK, le potentiel de ce lieu. On s'est dit, OK, c'est quand même plutôt grand, en fait. Et il y a des volumes, et ça va être sympa, et on va en faire un truc cool, quoi.
OK. Et combien de temps durent les travaux?
Genre l'été, je crois. 3-4 mois.
Donc après, il faut recruter une équipe.
Ouais, après, il y a ce moment de réalisation aussi où nous, on voulait ouvrir un petit truc, juste Sarah et moi à la base, dans notre tête.
Ah oui, okay.
Ça, en cuisine, moi en salle, un peu le format Mokonauts.
En fait, on a trouvé un lieu qui était plus grand que ce qu'on voulait.
Ouais.
Et du coup, on s'est dit, oui, mais dans 70 mètres carrés, il ne peut pas y avoir que toi et moi. Enfin, il faut quelqu'un avec moi en cuisine, quelqu'un avec toi en salle, enfin, voilà, un minimum.
Et du coup, on se retrouve à embaucher une serveuse et une cuisinière, ce qui n'était pas du tout l'idée à la base.
Ouais.
Et étant encore jeune et bébé, on se dit, on n'a pas besoin de plongeur. Du coup, on ouvre un peu comme ça, freestyle. Et genre, on se rend compte qu'en fait, la plonge, c'est un vrai poste. Et du coup, on embauche Malcolm, qui est encore avec nous aujourd'hui, depuis 2013. Et on se retrouve à être 5, après une journée d'ouverture, enfin, 2 jours d'ouverture.
Donc vos premiers pas d'entrepreneur, comment ça se passe, ces premiers recrutements, ces premiers?
Assez naturellement.
Oui, je pense qu'on a trouvé Lise qui était avec moi en cuisine assez naturellement et qui nous a proposé d'être avec nous sur le projet. Donc c'était pas vraiment un entretien d'embauche, quoi.
On a eu de la chance. On a eu des gens très bienveillants au début. Vraiment, si quelqu'un avait voulu abuser de nous à cette époque-là en termes de jeunes employeurs, ils auraient pu parce qu'on connaissait rien à rien. Et en fait, on a eu de la chance. Lise, la première cuisinière historiquement avec Sarah, était toute bienveillante et vraiment adorable et très investie. Marie-Louise en salle, pareil, une grosse énergie américaine, motivée. Et tout le monde sait qu'une ouverture de restaurant, c'est compliqué, c'est difficile. Il n'y a pas de système en place. Il faut tout créer pendant que t'es en train d'ouvrir. Et il fallait voilà quelqu'un qui a envie. Et Malcolm qui était voilà juste un mec super motivé et vraiment incroyable. Donc du coup, on a été bien entouré tôt. On a été gâtés quoi dans ce sens-là.
Je pense aussi que c'est important. Enfin, nous, on n'avait aucun souhait de dire j'ai envie de monter un truc qui marche pour que je puisse me retirer de l'équation rapidement. Ça, il y a des business qui se montent comme ça, restos où vraiment, je vais faire 3 mois monter le truc, l'équipe, et après, je veux en gros faire vraiment la gestion. Ouais. Nous, on n'a pas eu du tout ce souhait-là.
Oui,
nous, pour
vrai.
Nous, on était là et voilà, on allait rester pendant toute la vie de Libelli, toi au bar et moi en cuisine. Enfin, il n'y avait pas de... Donc, je pense qu'ils l'ont senti aussi,
clairement.
Tu travailles avec des gens qui s'investissent aussi à 100%.
Oui, oui. Nous, on était là. Quand ils arrivaient, on était déjà là. Et quand ils partaient, on restait. Et les premières années de Libelli, les 4 premières années, je dirais, on a 7 ans aujourd'hui. Les 4 premières années, c'était avant qu'on ait Louis. Hein, c'était tous les jours, de très tôt à très tard. Et ça, ça règle beaucoup de problèmes en termes d'embauche aussi et de management du staff. Parce qu'ils te voient là tous les jours, avant eux et après eux et pendant. Et du coup, bah... ton style de management, il transpire dans ta façon de travailler et donc du coup ça crée une culture d'entreprise saine. Et comme dit Sarah, on n'était jamais dans l'idée de circuler ou de faire travailler les gens pour nous.
Oui, vous travaillez autant que
voilà, nous on était contents d'être là, de bosser. Voilà, on a bossé très dur, très longtemps. Et ça, je pense que ça nous a vraiment aidé en termes de parce que ça a jamais été compliqué d'être employeur puisqu'on était employeur-employé, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et donc ça cartonne dès l'ouverture?
Ouais.
Ouais, ça marche bien quand même. Ouais. C'est vrai que
grâce au blog.
Mais j'allais te dire grâce à ce blog, je pense qu'on a créé un petit peu de curiosité avant l'ouverture, ce qui était encore une fonction cachée du blog. C'était pas l'idée, mais ça a fait ça un peu. Et genre il y a ce truc là dans le 10e qui va s'ouvrir et voilà. Donc ça a fait qu'au lieu d'avoir 0 personne, il y a eu genre 6 personnes à l'ouverture qui avaient un peu suivi le blog. Et puis ils en ont parlé, et puis l'un dans l'autre, un peu de presse.
Non, je me rappelle qu'il y a eu du monde parce qu'on cuisine à deux, c'était compliqué. On avait une espèce de boîte à chaussures de cuisine avec des postes de cuisson qui étaient un peu récupérés de l'ancien resto, quoi.
Ouais.
Et c'était dur.
Et comment vous expliquez l'engouement ensuite qui arrive des restos avec autant de followers sur Instagram? Ils sont peu. Qu'est-ce qui explique ce succès?
C'est parce que c'est parce que c'était pas que Instagram en fait. Parce que maintenant on sait tous que c'est facile d'avoir un gros compte, des jolies photos, des followers, c'est pas très compliqué à obtenir.
Des followers, on sait pas si c'est des vrais.
Ouais, c'est facile d'avoir un gros compte. C'est pas compliqué. En fait, c'est juste parce que Libelli, c'est devenu une promesse assez rapidement. On a toujours dit, voilà, c'est bon, ça se passe. Enfin, on a un bon service. C'est que des produits, en cuisine, c'est que des produits frais. Enfin voilà, on était toujours en train de rabâcher la même chose, qu'on était sérieux, qu'on faisait les choses bien, etc. sur Instagram, mais c'était vrai. Donc du coup les gens ils venaient. En fait Instagram, tu peux pas mentir, surtout dans la restauration, en gros si tu as quelque chose en ligne, mais après les gens ils viennent. Donc il faut quand même être au rendez-vous. Moi je dis toujours qu'Instagram ça fait le lien entre la porte de cette personne et ta porte à toi. Ça met Instagram, ça s'arrête à la porte. Ça veut dire qu'à partir du moment où il rentre, c'est pas Instagram qui débarrasse les tables ou qui fait le café ou qui fait la cuisine. C'est un outil pour faire du lien donc entre chez des clients et chez nous, mais après il faut être là, il faut être présent, il faut faire le taf.
Faut pas décevoir. Ouais.
Ça fait 7 ans qu'on travaille très dur à pas décevoir. Ni nous, on veut pas se décevoir nous, et on veut pas décevoir les gens. Et en fait, je pense que le entre guillemets le secret du succès, c'est ça. C'est juste, c'est pas que du Instagram. Mais c'est vrai que je pense qu'on a souffert de cette image, et on souffre encore peut-être de cette image aujourd'hui. Un truc de com, un truc je sais pas. Il y a des gens qui doivent croire qu'on est une chaîne ou tu vois, parce que justement on a ce gros compte Instagram, qu'on est juste là. Enfin, tu vois, je pense que vu qu'on parlait pendant très longtemps, on a communiqué en anglais là avec le confinement et le fait que les frontières ont été fermées, on recommunique beaucoup en français. Parce qu'on est avec notre clientèle locale, mais je pense qu'on a souffert d'une fausse image pendant très longtemps, tu vois, d'un truc à pancakes, d'un truc à brunch. Je sais pas comment les gens nous ont perçus pendant les années, mais on n'était pas ça. On était voilà, un vrai restaurant. Moi, je me vois et comme un restaurant traditionnel de service à table. Et effectivement, on n'a pas choisi de faire un service midi soir, on a choisi de faire un service matin midi. Mais en soi, dans tous les aspects, tous les recoins de Libelli, c'est similaire à un restaurant et un bon restaurant dans notre sourcing, dans notre staffing, dans notre management, dans notre façon de cuisiner, les techniques qu'on emploie, les critères qu'on s'impose, notre cahier des charges. On est un restaurant, juste qu'au lieu de servir entre 12 et 14 et 19 et 23, on sert non-stop de 9h à 16h. Mmh. C'est la seule différence entre Olibelli et un restaurant traditionnel.
Et alors, tu parles de sourcing, là. Vous êtes labellisé 3 écotables depuis très peu. il vient d'où cet engagement pour l'éco-responsabilité? Sarah, peut-être?
100% Sarah. Vraiment. Mais moi, elle m'a sensibilisé à ça. Mais moi, je suis un garçon. Je suis feignant. Ma tête va toujours à la simplicité. Et s'il n'y avait pas Sarah, Olibelli serait très, très, très différent. Mais vraiment très différent. Et c'est elle qui pousse vraiment tous les curseurs à fond là-dessus.
Oui, alors toi, il vient d'où ton engagement, Sarah?
Je sais pas d'où il vient exactement. C'est juste que pour moi, on doit toujours se pousser à faire au mieux, du mieux qu'on peut. Et le fait qu'on ait du volume et ça nous a permis de revoir plein de choses vis-à-vis de vis-à-vis du sourcing, etc. On n'a pas commencé du tout. Enfin, quand on a commencé il y a 7 ans, on était moins regardant. Là aujourd'hui, on a déjà j'ai un peu plus le temps de m'y pencher. Et puis pour moi, il faut toujours s'améliorer. Donc, c'est pas parce que Olibelli, ça marche bien depuis 2013 qu'on va rien changer. On va garder les mêmes recettes, nos mêmes menus, etc. Et tout va bien. C'est justement l'occasion qu'il y ait du monde, qu'il y ait des bons retours, qu'on réussisse à avoir ce cercle vertueux. Ça permet de s'améliorer. Et le motto qu'on a, il est important. It's good because we care. On se le rappelle tous les jours. On se le rappelle en envoyant une assiette, etc.
C'est une ligne de conduite.
Ouais, c'est une ligne de conduite et ça nous rappelle qu'il faut toujours chercher à s'améliorer sur les choses. Là, oui, on a 3 écotables, c'est cool, trop bien. On a tiqué plein de trucs, mais ça veut pas dire que c'est bon, on va reposer sur nos lauriers. Non, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux?
Et je pense que Sarah, ce que tu dis pas et ce que tu me dis tout le temps aussi, c'est que ce volume, c'est une responsabilité. Parce qu'on a du monde. Bon, là, je te parle de l'ère pré-Covid, hein. Mais donc, Olibelli 5, pré-Covid, c'était 350 couverts jour en semaine, 500 couverts jour de week-end, 7 sur 7, avec 3 fermetures par an. Donc, c'est une quantité de nourriture énorme et donc, c'est une responsabilité, en fait.
Donc,
et
chaque décision qu'on prend, elle est importante parce qu'elle est multipliée par plein de couverts.
Oui, c'est clair.
Voilà.
Et ce mojo quand même votre slogan, que it's good because we care, il est là quand même depuis le début. Donc ça veut dire que depuis le début, vous vous êtes dit quand même, on va faire quelque chose qui va être sensé, en tout cas, qui va avoir le moins d'impact possible.
It's good because we care, c'est parce que la question revenait tout le temps. Pourquoi ça marche? On nous l'a posé très tôt, cette question. Okay. Pourquoi ça marche? Pourquoi
il n'est pas depuis le début. Il n'est pas depuis 2013, It's good because we care.
Deuxième année, peut-être, retrouvé ça deuxième année. Ouais, ouais. Mais on nous posait toujours la question. Pourquoi ça marche? Pourquoi il y a du monde? Et on était là, parce que, donc on l'a trouvé en anglais, mais c'est dur à traduire, mais c'est parce que c'est bon, parce qu'on est dans chaque aspect du restaurant, on care, enfin c'est important pour nous. On va faire 500 couverts jour, mais s'il y a une assiette qui sort mal, Sarah va m'en parler pendant 15 jours. Ouais, mais quand même, ça m'embête, samedi, les œufs, ils étaient pas machin, ou alors. Et ce niveau d'implication, 7 ans après, le fait qu'on soit encore autant connecté, plugué, vraiment au cœur de notre business, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui ne nous dérange pas. S'il y a une mauvaise expérience client, c'est encore aussi important pour nous aujourd'hui, avec 32 salariés, et 500 couverts jour, qu'à l'époque où on faisait 5 fois moins de couverts avec 5 fois moins d'employés, notre engagement reste le même, en fait. Et au contraire, le fait d'avoir grossi cette croissance et ce volume nous rend d'autant plus responsables, et il faut qu'on réponde à nous-mêmes encore plus. Enfin, et donc c'est pour ça qu'on composte, et c'est pour ça, parce que nous, si on fait les choses mal, on les fait mal 500 fois par jour. Ouais. Et si on les fait bien, on les fait bien 500 fois par jour. Donc on est d'autant plus responsables. Et je pense que toi, Sarah, t'as une énorme culpabilité, en fait, sur le fait d'être un restaurant à gros volume, mais une culpabilité bienveillante, enfin positive, bénéfique, dans le sens où tu te dis, en tant que chef de ces deux restaurants, j'ai une grande responsabilité parce que mes décisions ont quand même une grosse impact.
C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que en général, enfin ça a tendance à changer, mais avant le grand public qui allait au restaurant a plutôt tendance à se dire, au restaurant c'est un moment de plaisir et je pense pas à ça, je pense pas trop à d'où vient mon produit. Qu'est-ce qui se passe en termes de gaspillage alimentaire, en termes de tri sélectif? Alors que chez eux, ils vont faire hyper gaffe.
Voilà. Ou tu veux avoir une assiette qui est grosse, qui a l'air très généreuse et tout ça. Et c'est vrai qu'à Olibelli, on essaie toujours de... Bien sûr, on n'a pas envie de servir des trucs minuscules et qui soient... Mais on essaie toujours d'avoir ce bon équilibre entre c'est généreux, mais les gens vont tout manger. S'ils mangent pas tout, il faut qu'il y ait un retour de la salle qui nous dise, là, les gens, ils mangent jamais le deuxième bout de pain. OK, bon, ben, on n'en met plus qu'un. Tu vois, on essaye toujours d'avoir ce bon équilibre-là.
On se pose encore énormément de questions. 7 ans après, on n'a pas du tout toutes les réponses. On fait tout le temps des débriefs. On est tout le temps en train de parler. On fait des réunions. Chaque aspect, tu vois,
Mais c'est vrai que dès le début d'Olibelli, tu te rappelles, en 2013, quand on a ouvert, on avait un menu par mois avec les fruits et légumes de saison, les poissons, les viandes, etc. Et on avait un grand tableau à l'arrière avec les fruits et légumes de saison, tu te rappelles ?
Oui, oui, ça c'était à la base, ouais. Dès le début.
Et
on était...
parce qu'on avait aussi envie de
transmettre.
Ben, en fait, quand j'ai voulu faire pour un peu planifier mes menus, savoir ok, qu'est-ce qu'on a comme en janvier, en février, en mars, en avril, j'ai trouvé ça hyper confus sur Internet où il y avait pas trop de ressources et je me suis dit, merde. En fait, les gens qui veulent manger de saison, ils savent pas forcément qu'est-ce qu'est de saison, tu vois. Donc, je me suis dit que c'était sympa de le poster comme ça. Les gens, ils disaient, ah, ben tiens, oui, c'est vrai.
Je me souviens plus que les topinambours. Je m'en rappelle, voilà. Tous les mois, il fallait le refaire. Ouais.
Ce qu'on voit aujourd'hui partout.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et c'est intéressant parce que je trouve qu'à Olibelli, le fait de notre volume et le fait qu'on garde les trucs très bonnes franquettes, etc., tu peux faire un truc trop bon, qui est gourmand, il y a pas de genre j'ai mangé ça cette saison mais en fait ça m'a pas plu, tu vois. On essaie vraiment de concilier le fait que de faire des choses gourmandes et généreuses mais avec des choses de saison.
Mais vous avez quand même tendance à promouvoir des recettes qui viennent d'ailleurs. Vous faites des mix. La dernière fois que j'ai mangé une tortilla par exemple avec de l'avocat, etc. Oui. Comment vous gérez cette partie nourriture exotique entre guillemets? J'aime pas trop utiliser ce terme, ouais, parce que ça veut un peu rien dire, mais en tout cas plat d'ailleurs. Est-ce qu'on arrive à être éco-responsable en ayant des
plats d'ailleurs? Il faut faire attention. Par exemple, on a des cuisiniers là d'Équateur, pas mal, et en Équateur il y a pas trop de saison. Donc des fois ils me ramènent des idées de plats, mais avec des trucs qui viennent. Enfin, c'est pas possible de les faire en France. Donc on essaye d'adapter. Tu vois, là l'avocat par exemple, on le sert jamais quand il est pas en saison. Donc on le sert que en hiver, là que c'est en saison et que ça vient d'Espagne ou d'Italie. Après on va pas faire de l'avocat toute l'année. Une fois qu'il est plus en saison, on arrête. On essaye de faire des compromis. Par contre, voilà, on se fait plaisir quand il est en saison dans les pays limitrophes et qu'il est bien sourcé. On n'est pas trop. On essaye d'être éco-responsable en restant assez un petit peu souple, tu vois. Par exemple, on fait pas de banana bread parce que moi je pense qu'il y a plein 10 000 pâtisseries qui peuvent être faites sans bananes, et que y a pas besoin de faire du banana bread. On en a fait, je crois, une fois un week-end en se disant bon bah c'est le week-end, on peut se faire le petit plaisir de voilà, tu veux essayer ta recette, tu le fais. Mais on essaye toujours de trouver des compromis, et les recettes exotiques, elles sont toujours adaptées aux fruits et légumes français, ou en tout cas pas des trucs qui viennent d'Amérique du Sud.
Et toi, Nicolas, t'as réussi à faire ce que tu voulais en termes de café?
Tu veux dire
en termes du café que vous servez à Olibelli et de ce que t'avais vécu en Australie?
Ouais, clairement, moi je suis très fier de ce qu'on fait à Olibelli, et je pense qu'on a longtemps souffert du fait que on avait un peu les fesses entre deux chaises. Par exemple, là j'ai le Goemio qui m'a appelé hier parce que voilà, bref, il voulait me vendre un truc, et je regarde sur Goemio, je vois qu'ils nous ont mis dans coffee shop. Et tu vois, on a souvent eu les fesses entre deux chaises. Les gens, ils savaient pas si on était un coffee shop, si on était un restaurant. Ça existe pas en fait ce qu'on voulait proposer, tu vois. Et du coup, je pense qu'on est snobé par la scène café parisienne qui pense qu'on est pas vraiment un vrai café ou un vrai coffee shop et qu'on mérite pas d'être considéré tel que. Je pense qu'on est snobé par une certaine frange de la restauration pure qui pense qu'on est un coffee shop, et nous on est au milieu, et voilà. Et donc on a un problème d'appartenance, je pense, parce qu'on est moi je m'identifie absolument pas comme un coffee shop, je m'identifie beaucoup plus comme un restaurant, mais à chaque égard du café, on a les mêmes exigences qu'un coffee shop, et je pense qu'on dépasse même l'exigence de certains coffee shops, dans le sens où l'eau qui passe dans la machine, elle passe par un osmoseur immense, donc on la calibre. Le café qu'on source, c'est Kopi ou c'est la brûlerie de Belleville. Les baristas, ils sont formés, ils extraient tout avec des recettes, et il y a rien qui quitte le bar qui soit pas parfaitement extrait. C'est juste qu'on n'en parle pas forcément, ou c'est pas quelque chose qu'on met extrêmement en avant ou qu'on utilise pour se la raconter un petit peu. On fait très sérieusement le café de la même manière que je le faisais à Melbourne, juste on l'accompagne de cuisine. Mais voilà,
c'est peut-être aussi pour ça que ça marche, c'est parce que vous êtes ni un restaurant ni un coffee shop, et que peut-être, justement, vous proposez quelque chose de différent.
C'est ça.
Mes deux dernières questions, c'est les questions que je pose traditionnellement dans ce podcast. La première, c'est est-ce que vous vous considérez comme des militants de l'assiette? Est-ce que le terme militant s'associe bien à vous, ou c'est un terme qui vous déplaît?
Moi, j'ai du mal avec le terme de militant. Je me considère assez peureux en fait, et assez. Je suis pas vraiment un leader dans ce sens-là. Ou j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui militent pour quelque chose, qui vont donner leur vie à une cause. Je suis assez. Je suis pas très militant. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je tolère pas, mais j'ai du mal à le revendiquer ou à essayer d'emmener les gens avec moi là-dedans. On a une responsabilité avec Oli Belli, on a déjà une grande responsabilité, une possibilité de toucher beaucoup de vies. Et je trouve que on est acteur, parce que voilà, je te dis, à une époque, on touchait 500 personnes par jour et on leur faisait manger des choses saines et on essayait de leur faire comprendre notre démarche. Mais tu me verras jamais en première ligne d'une manifestation. Ou écrire une tribune. Je me considère pas comme étant militant, mais je sais très bien ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable pour moi, et je le dirai aux gens qui me demandent. Mais voilà.
Et toi, Sarah ?
Oui, c'est vrai, le terme militant, on n'a jamais trop pensé à ce terme-là en se décrivant, mais je pense qu'on essaye toujours d'avoir un bon équilibre. Dans nos propositions, depuis 2013, on a toujours proposé un plat végétarien à la carte, pour essayer vraiment de sensibiliser les gens, de leur dire que végétarien, c'était pas forcément sans goût, ou à chaque fois qu'on fait de la viande, on la fait en une portion, qui sont pas délirantes, juste pour avoir le plaisir de manger de la viande sans en avoir consommé 300 grammes. On essaie d'être dans l'équilibre là-dessus, mais d'une façon moins rentre-dedans qu'un militant, d'une façon un peu plus... Ouais.
Je pense qu'on milite calmement, en faisant, plutôt qu'en disant. Enfin, tu vois, par nos actions, on essaie d'être irréprochable, et on espère qu'en nous regardant, on va donner envie. Voilà.
En fait, pour donner un bon exemple, par exemple, des fois, on a des plats qui sont vegan en soi, parce qu'il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de produit animal. Mais on n'écrit pas que c'est vegan parce qu'on veut pas fermer le plat aux gens qui ne sont pas vegan et qui vont dire « Ah non, ça c'est vegan, moi je suis pas vegan, donc je ne prends pas ce plat », tu vois.
Tu crois que ça se passerait comme ça?
Ah oui, complètement, ouais.
C'est vrai, moi je fais l'erreur des fois, hein. Je dis le plat végétarien aujourd'hui, et ça dit non, c'est pas un plat végétarien, c'est un
plat. Non, tu dis le plat pour les végétariens.
Ouais, pour les végétariens. Voilà. Je dis ouais, le plat pour les végétariens. Mais non, c'est pas le plat pour les végétariens, c'est le plat pour tout le monde.
C'est le plat pour tout le monde. Voilà, Donc on est plus dans ce système-là où par contre quelqu'un qui va prendre ce plat et qui va dire putain, c'était trop bon et tout, je vais lui dire ah mais tu vois, tu sais, c'est dingue, c'est cool, c'est vegan, et il va dire ah bon, hein. Ça je préfère cette démarche là tu vois.
Ouais, vous les donner envie par l'expérience.
Ouais, en fait, ouais. De pas fermer en étant trop dur, en se mettant trop de on est un restaurant végétarien ou vegan et tout, de laisser ouvert en sensibilisant les gens.
OK. Voilà. Et ma dernière question, bah, déjà, ce sera sur l'avenir. C'est quoi l'avenir de Oli Belli? C'est une troisième adresse?
Non.
Ça, on le sait. On avait une vision pour Oli Belli qui a été chamboulée avec des opportunités, l'opportunité d'ouvrir quelque chose de plus grand, l'opportunité d'avoir une deuxième adresse dans la même rue.
Voilà, pas à la base, c'était une adresse. Déjà, c'était une grosse décision d'en ouvrir une deuxième.
Et donc, on avait cette vision, et maintenant, on trouve qu'on est à l'équilibre le 19 et le 5. Se complémente parfaitement, un peu en mode yin yang, ça clique, il y a tout, il y a au 5, il y a ce côté confort, grand lieu, musique, énergie, carte un peu plus anglophone, très bon café, très bonne cuisine, etc. Le 19, un peu plus intime, un peu plus francophone, une cuisine un petit peu plus je vais pas dire soignée parce que le 5 c'est soigné aussi, mais un petit peu plus dans les détails peut-être, ou des plus petites assiettes. On a tout. Il y a quelque chose à manger pour tout le monde. De 9h à 16h, entre les deux adresses qui sont à 200 mètres l'une de l'autre, on peut faire plaisir à tout le monde. Et moi, des fois, j'ai envie d'aller manger au 5, et des fois, j'ai envie d'aller manger au 19. Et on propose tout ce qu'on avait envie de proposer. Donc, une troisième adresse, pour nous, ça aurait pas d'intérêt. Et c'est déjà beaucoup de travail. Ouais, on essaye de faire les choses correctement pour les 30 personnes qui nous suivent tous les jours. On essaye de prendre soin d'eux, de prendre soin de nous. On a acheté une maison dans le Perche l'année dernière. C'était un projet aussi qu'on avait depuis un long moment. Et on est très content d'avoir cette maison. On va prendre le temps de profiter de cette maison. On a un petit garçon. On est très content d'avoir un petit garçon. On va essayer de profiter de ce petit garçon.
J'allais vous poser cette question parce que donc vous avez ouvert ce deuxième établissement en 2017. Et il me semble que vous avez eu votre enfant en 2017.
Ouais.
Comment vous avez géré la parentalité avec un métier aussi prenant, sachant que vous êtes tous les deux dans l'établissement et que vous faites a priori tous les deux les mêmes horaires? Alors,
C'était le bordel. C'était vraiment le bordel.
Ouais, c'était horrible. C'était horrible parce qu'on a, eu un retard de travaux qui a fait qu'on a ouvert 2 semaines avant que d'avoir Louis.
Ah oui.
Et du coup, c'était très compliqué cette période-là. Heureusement qu'on était tous les deux.
Et en plus, on savait quand même que Sarah allait. On a découvert que Sarah était enceinte le jour où on a signé le bail du deuxième Holy Belly, le même jour. Donc on s'était organisé quand même. On avait trouvé un chef qui devait faire un peu la transition pendant que Sarah était pas là. Et c'est malheureusement, des fois la vie fait mal les choses. Sur nos 90 embauches, c'est la personne à qui ça s'est vraiment pas bien passé. Et du coup, Sarah, elle a non seulement pas eu de congé maternité, c'est-à-dire qu'elle était en cuisine jusqu'à peut-être 4 jours avant d'être en train de donner naissance à Louis. Et elle est retournée en cuisine vraiment, mais pas en cuisine genre sur le côté, vraiment genre au milieu à l'envoi. Une semaine après la naissance
mais
de
non.
Louis,
ouais,
parce qu'il y avait
choix,
parce que
ouais.
cette personne-là n'a pas pu rester.
Mais comment juste, enfin moi qui ai accouché il y a pas si longtemps, juste comment t'étais debout aussi longtemps à gérer.
C'était c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on a eu 2 bébés en même temps, mais pas des jumeaux, tu vois. Deux bébés d'une nature différente, et du coup tu te sens tiraillé entre tes deux. Enfin soit tu dis non, mais du coup on garde ce chef avec qui ça marche pas. Enfin comment on fait, on peut pas. Ou soit il y a pas de solution, quoi, on ferme.
On voulait pas décevoir encore une fois avec cette personne-là.
Mais du coup, t'es tiraillé entre tes deux bébés, en fait.
C'est dur. C'est une sale période. Et je me rappelle.
Et toi, t'as pas pris non plus de congé paternité.
Non, moi j'étais au bureau avec Louis. J'avais Louis sur ce petit bébé avec moi. On a construit un bureau au Libelli 5, un petit bureau, parce que on savait qu'avec beaucoup de salariés, on aurait beaucoup de paperasse. Bref, donc on avait un petit canapé et ça donne sur la salle et la cuisine. Et donc du coup, des fois, il avait faim, il pleurait et il y a un téléphone entre le bureau et la cuisine, et donc Sarah était en plein service et j'appelais. En plus, on a eu du monde tout de suite. Il n'y a pas eu de croissance à Holy Belly 5. On avait déjà cette réputation, donc il y a eu beaucoup de monde tout de suite. Et j'appelais Sarah en plein service. Elle venait, elle lui donnait le sein dans le bureau 5 minutes et elle retournait en service. Et on a vécu comme ça pendant plusieurs semaines et mois.
Très, très compliqué cette période, mais bon, après, c'est comme ça.
T'as trouvé quand même quelqu'un pour te remplacer après et t'as pu profiter un peu de ces moments ou même pas juste après.
Non,
ça a été long.
Non,
hein.
C'est aussi pour ça quand on parle d'un deuxième ou quoi, on est un peu. Enfin, moi, je me dis, j'ai ce souvenir de me dire, tu sais, tu te sens
tiraillé.
Tu te sens comme une vache avec des pies, mais que tout le monde te tire le lait d'un côté et d'un autre, tu sais.
Ouais.
Puis ouvrir un restaurant, c'est lourd. Enfin, avoir un enfant, j'en parle même pas, mais on passait d'un petit restaurant intime familial à un grand restaurant de 100 places. On passait de 7-8 salariés à 25. Tout était chamboulé. On avait des retards sur notre autre chantier. Enfin, c'était vraiment très, 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 très compliqué.
Après, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Louis. On s'est dit, Louis, en fait, il est un peu passé comme si c'était le 20e de nos employés, tu sais. C'est finalement une personne. Bon, voilà. En fait, si on l'avait eu, qu'il s'était rien d'autre passé dans notre vie, ça aurait été dur.
Oui, mais là,
c'était très dur. Mais,
vous auriez pu quand même aussi exploser en vol, parce qu'à côté de ça, on dort pas bien la nuit.
Ouais, on dormait mal. Mais c'était super compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai aucune culpabilité sur le fait. Voilà, par exemple, j'en avais parlé pendant le confinement, parce qu'on a cette belle maison dans le Perche maintenant, et je peux imaginer les gens avoir une vision de nous extérieure, donc de l'extérieur regardant vers l'intérieur, se dire « Ouais, Nico, Sarah, machin, ils ont cette maison, elle est cool, elle est belle, elle est grande, ils ont pas 35 ans, ils ont 2 restaurants et tout, machin, etc. » Mais moi, je suis très à l'aise avec tout ça parce que il n'y a pas d'autre manière de le dire. On en a chié, mais vraiment de physiquement, les heures investies incomptables. Enfin, je veux dire, l'investissement était total et au-delà de total. Et donc ça nous libère d'un côté, puisque tout ce qu'on a, on l'a obtenu pas parce qu'on avait des parents qui étaient comme ci ou comme ça, pas parce qu'on avait des investisseurs, pas parce que c'est Sarah et moi 50-50 au capital, et tout ce qu'on a construit, on l'a construit avec nos 4 mains. Et il y a eu des moments où ça a été très très compliqué, et donc du coup, si des fois ça jalouse, ou si des fois ça juge, ou si des fois ça, c'est interdit, puisque on était tout ce qu'on voit et tout ce qui est là et tout ce qui est montré, ça a été construit par nous deux, et il y a eu des moments où c'était vraiment très 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 difficile.
Donc, vous avez fait des sacrifices
importants. Oui, sans que ce soit des sacrifices c'était pour moi, ça n'avait pas l'air de sacrifice, mais c'est vrai qu'on n'est jamais allé à un mariage pendant 7 ans parce qu'on était ouvert 7 jours.
Oui.
On n'était pas dispo le week-end, on bossait.
Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, que les gens
anniversaires, des mariages, on n'a pas vu nos copains pendant les quatre premières années.
En gros, nos meilleures années, 26 à 34, il y a plein de gens qui appelleront ça les meilleures années, on les a passées à travailler, hein. Il y a plein de gens qui comprenaient pas, mais vous bossez tout le temps, bah oui.
Mais c'est pas, mais c'était pas un sacrifice,
mais non,
en fait.
Non, on l'a pas vécu, comme tel. Après,
nous,
c'est sûr que le corps a ses limites.
Ça nous faisait plaisir, enfin, c'était ce qu'on avait envie de faire. Oui.
Mais aujourd'hui, vous arrivez à trouver un équilibre entre vie de famille et travail?
Oui.
Après, on a eu cette réalisation la dernière fois que quand t'es chef d'entreprise et restaurateur, quand tout va bien, à notre échelle maintenant, quand tout va bien, on a une vie qui est assez confortable. Ça veut dire que moi, je peux arriver à Libelli à 10h, c'est un luxe. Enfin, je le fais pas parce qu'on dépose Lou à l'école, mais ça dépend. Maintenant, ça y est, avant le Covid, en tout cas, sur nos deux pieds,
on avait nos week-ends.
Enfin, en termes de restaurateur, on était bénis. On travaillait pas le soir, on avait nos week-ends, etc. Donc, quand tout va bien, on était vraiment privilégié. Par contre, dès qu'il y a un problème, donc tel le Covid par exemple ou quoi que ce soit, t'es le premier, t'es sur le front direct. Donc là, par exemple, le Covid, ça a vraiment tout chamboulé et on s'est retrouvé à faire des heures à rallonge, relancer ce HB2Go, c'était super compliqué et ça nous a rappelé cette fatigue et cette énergie qu'il faut déployer pour que ça passe. Et
c'est en vrai fait, que de lancer à emporter, c'était comme ouvrir un troisième restaurant.
Ah
donc
oui.
Là, on travaille 7 jours.
Là, en ce moment, vous travaillez 7 jours.
Oui,
7.
On travaille 7 jours. Le matin, à 7h30, je dois mon ordi avec les précommandes. Le soir, il faut rattraper toute la paperasse.
Jusqu'à 11h30. Avec Louis au milieu de tout ça.
Et là, je sens que...
Il a quel âge aujourd'hui? 3 ans. Et comment il gère, lui, ça, de vous voir travailler comme des dingues?
On ne lui montre pas trop, je pense. Enfin, on travaille quand il est couché le soir à la maison. On le dépose à l'école.
On essaye de le. Et puis encore une fois, ce qui est intéressant, enfin ce qui nous a sauvés toujours, je pense, c'est que Nico et moi, on travaille tous les deux à Olivier. Enfin, donc du coup, il y a pas cette culpabilité de dire bon ben moi je m'occupe de Louis, mais du coup toi tu vas faire ton boulot. Mais on est dans le même. C'est Olivier tous les deux. Donc c'est de quoi Olivier a besoin en premier? De ton travail, de mon travail? Bon, bah, vas-y, alors je garde Louis et va faire le travail dont t'as besoin, ou l'inverse.
On est une vraie équipe là-dessus.
Louis, c'est notre fils à tous les deux, et puis Olivier, c'est notre resto à tous les deux, donc c'est plus facile.
C'est vos bébés à tous les deux.
Mais pour revenir à ta question du futur, du coup, pour nous, notre idée, c'est de consolider et de rétablir cet équilibre vie-travail après le Covid, consolider Olibelli, s'assurer que Olibelli, tu parlais d'institution, pour nous c'est important. On a toujours une vision long terme, on n'est pas là pour monter une affaire, la vendre 2 ans après. On veut pas être une étoile filante qui brûle très haut, très fort, très rapidement. Nous, on est l'endurance, le long terme. On a vu beaucoup d'affaires s'ouvrir et se fermer autour de nous. Nous, on avait vraiment une vision qui s'étale sur plusieurs années. Et on veut aussi kiffer, avoir une vie qui est équilibrée. Et du coup, voilà, le projet, c'est vrai, le futur, c'est celui-là. C'est récupérer cet équilibre qu'on a touché à un moment, qui était vraiment super. Le Covid est venu un peu déstabiliser tout ça. Mais
bien
c'est pas grave.
Il y a encore plein de trucs à faire sur le sourcing. Enfin, il y a plein de choses. On aime bien, avant de passer à l'étape d'après, de toute façon, d'être vraiment complètement optimisé sur l'étape d'avant, tu vois. On aime pas
ne pas brûler les étapes.
Voilà,
vraiment.
Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup à toi.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !